célébrer une industrie secouée en France et dans le monde par une série de licenciements et de fermetures de studios.
Merci beaucoup Cécile Mérieux. Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est l'historien Pierre Cernat. Il publie L'Extrême Centre ou Le Poison français, c'est aux éditions Champvallon.
La patrie a besoin de vous, s'est écrié Emmanuel Macron, qui a prévenu solennellement les Français, ainsi qu'on l'a entendu, qu'il faudra des réformes, du choix, du courage dans la nouvelle ère qui s'esquisse face à un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, car le monde change en ce moment. Alors, beaucoup de questions se posent. Faut-il une escalade militaire, mutualiser la dissuasion nucléaire, etc. On ne va pas répondre à ces questions-là ce matin. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le fait que l'exécutif reprenne la main, et donc au détriment aussi du pouvoir législatif qui aujourd'hui, le Parlement, est en berne. Ce dont nous allons parler renvoie à la matrice de la République, à la patrie en danger, concept né sous la Révolution et dont Pierre Cernat, historien de cette période, nous dit qu'il a produit un oxymore qu'on appelle l'extrême centre, que l'on va analyser. Oui, le centre, pas les bords, peut-être extrême. Et justement, si tout le monde est extrême, alors c'est peut-être dire que personne ne l'est. Mais on va lui poser la question. Il n'en demeure pas moins qu'une République subtilement autoritaire, écrit-il, a banalisé l'état d'urgence et rogne sans cesse sur les libertés fondamentales au nom de la peur et de la nécessité de se protéger d'une menace. Hier, Valmy, aujourd'hui, la Russie. Bonjour Pierre Cernat.
Bonjour et merci de m'inviter.
Vous êtes à cheval entre la politique et l'histoire quand même.
Je travaille sur l'histoire des pratiques et des idées politiques, donc oui, cela me passionne, je suis avant tout un historien. Un historien de l'histoire politique de la République et de la démocratie, donc fondamentalement de l'histoire de la Révolution française et des idées politiques au XIXe siècle et aussi au XXe siècle.
Robespierre sort de ce corps.
Oui, alors Robespierre, oui, et encore lui, toujours.
C'est lui qui a tout inventé.
Non. C'est un homme qui a une intelligence, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, hein, peu importe. J'étudie ses discours. Et je vois donc que dans la crise politique de l'hiver 1793, il comprend très très bien, il a une intelligence politique, après on peut discuter de son action politique, bien évidemment, mais il a une intelligence politique, il comprend que la politique est en train de se construire autour de deux espaces, donc qui seraient en fait une droite et une gauche. Mais une droite et une gauche qui sont déjà travaillées à cette époque-là, nous sommes en 1793, par ce qu'il appelle les ultra-révolutionnaires. Bon, Marat vient d'être assassiné, mais Hébert continue. Il y a le mouvement des républicaines révolutionnaires sur la gauche de la gauche, et puis à la droite de la droite, il y a les royalistes qui voudraient tout simplement, après l'exécution de Louis XVI, instaurer la monarchie et qu'il appelle donc les ultras, les citras révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui voudraient revenir en deçà de la révolution. Donc en fait, Robespierre a une claire vision de ce qu'est l'échiquier politique. Mais c'est un homme qui est quand même obsédé par la souveraineté populaire et par le pouvoir législatif. Donc il ne va pas faire le saut que feront les thermidoriens, qui vont l'éliminer, et puis surtout le directoire, sans parler de l'enfant maudit du directoire, le général Bonaparte, parce que c'est un long processus, hein, qui vont en fait dessiner cet invisible de la vie politique française, que je ne savais pas nommer, parce que, à force de dire que la vie politique française est clivée entre une droite et une gauche qui ne peuvent s'entendre, c'est ainsi que moi j'ai appris la vie politique française, elle avait des problèmes parce que la droite et la gauche ne pouvaient jamais s'entendre, eh bien moi j'ai, au bout de plusieurs années de réflexion, il m'a semblé voir un point aveugle dans cette histoire de France, qui était non pas une gauche et une droite qui ne pouvaient pas s'entendre, mais un centre qui était tellement important et qui se rendait invisible parce qu'il ne se nommait pas, et quand on ne nomme pas les choses, elles n'existent pas, et bien ce centre-là, en fait, avait empêché l'émergence d'une forme de parlementarisme un peu plus pacifié, entre guillemets, à l'américaine ou à l'anglaise. Je fais référence pour l'américaine et l'anglaise au passé, évidemment. Hein.
Cet extrême centre, donc, n'était pas nommé. Il en était d'autant plus fort. Est-ce qu'il a correspondu à un pouvoir de la bourgeoisie, d'une caste plutocratique ?
Plutocratique, je ne sais pas. En attendant, il y a un projet politique, qui est un projet politique thermidorien, et si vous me le permettez, il faut définir ce qu'est l'extrême centre, sinon on reste dans le vague. Trois piliers suggèrent, pour moi, mon permis, petit à petit, de construire la définition de l'extrême centre. Sortir de la violence de la guerre civile, de la terreur. C'est pour ça que Robespierre a esquissé, mais il n'en est pas l'artisan. Pour cela, la modération politique. Il faut sortir de l'anathème, il faut sortir de la calomnie, il faut sortir de la diffamation. Donc, tenir un à propos civilisé. On est entre gens courtois, on est entre gens stoïques, on est dans une sorte de virilité républicaine romaine qui sera celle des hommes du directoire.
Et une référence à l'Antiquité importante, hein, sur
évidemment,
la Révolution.
Évidemment, et donc trouver une modération pour sortir du discours des passions et des émotions qui a été celui de 1789-1794. Mais le deuxième pilier, celui qui m'a mis immédiatement la puce à l'oreille il y a plusieurs années, c'est la publication 15 jours après la défaite de Waterloo, donc ça devait être dans les tiroirs des éditeurs, d'un dictionnaire des girouettes. Évidemment, l'opportunisme est le second pilier de l'extrême-centre. C'est-à-dire que au nom des intérêts de la patrie, au nom des intérêts de l'État, au nom des intérêts supérieurs de la France, on se dit « Ah, mais moi je suis ni à droite ni à gauche » ou bien « Je prends le meilleur de la droite et je prends le meilleur de la gauche ».
Ça me rappelle quelqu'un.
Vous avez de la chance et vous me faites penser qu'à une seule personne.
Oui, c'est constant dans l'histoire. Allez-y, continuez, Pierre Sernin.
Et donc, ce dictionnaire des girouettes épingle près de 600 personnes, 650 personnes, qui depuis 1789 ont survécu à la monarchie constitutionnelle, à la République, au directoire, au consulat, à l'Empire, à la première restauration, aux 100 jours, à la seconde restauration, bien souvent pour protéger leurs intérêts personnels, leur carrière personnelle, accumulant de belles fortunes. C'est ce qu'on appelle des girouettes déjà à l'époque, et ces girouettes qui vont marquer durablement le paysage politique français, puisque ce sont des gens dont l'échine peut être particulièrement souple, et qui, selon les différences de gouvernement, vont d'un côté ou de l'autre, donnant de l'image de la politique, une politique qui peut être justement écornée, et qui peut énerver sur les extrêmes des gens qui peuvent se dire « Ah, mais c'est ça, la politique modérée, c'est en fait le partage, entre guillemets, d'un gâteau. » Le troisième élément qui permet de définir
modération, opportunisme.
Et, voilà, autoritarisme. C'est-à-dire que ce centre-là n'a pas besoin de lignes idéologiques fortes. Si vous êtes à gauche, vous êtes plutôt du côté du progrès, on va le dire de façon caricaturale. Vous portez les idéaux des Lumières, raison, démocratie, égalité, fraternité.
Lutte sociale.
Voilà, exactement. Si vous êtes à droite, vous êtes plutôt conservateur, vous êtes plutôt dans cette France-là plutôt catholique, vous êtes plutôt pour la propriété, pour l'ordre social. Voilà, le débat est clairement posé du point de vue idéologique. Le centre n'a pas besoin d'idéologie. Et l'effet de la Révolution, et donc la politique dramatique de la Révolution, la République qui naît dans la guerre, va montrer très rapidement aux hommes de pouvoir que ce qui compte, comme le disait Barrère, qui s'y connaissait bien. Barrère de Vieuxac, homme de la terreur, et qui est resté constamment catholique. Hein, c'est un des paradoxes très très intéressants de Barrère de Vieuxac, un homme des Pyrénées. Ça rappellera peut-être d'autres destins. Barrère de Vieuxac disait c'est bien de voter des lois, c'est mieux de les appliquer. Donc très vite, on va s'apercevoir que dans une république, le vrai pouvoir, contrairement à ce que tous les philosophes des Lumières ont dit, Montesquieu, Rousseau, Locke pour commencer, c'est pas le pouvoir législatif. Il faut conquérir le pouvoir exécutif. Et celui qui a le pouvoir exécutif va l'exercer de façon, alors soit respectueuse en écoutant ce que dit le pouvoir législatif, soit de façon autoritaire, illibérale, hein, de façon autoritaire et illibérale, en prenant des prérogatives qui ne lui appartiennent pas, mais qui lui donnent un pouvoir dans ce pays, toujours à la recherche d'un sauveur, d'un homme providentiel, qui va être tout à fait exceptionnel. Et il me semble que plus que Robespierre, c'est l'anonymat, hélas méconnu dans l'histoire de France, parce que, justement, c'est la première expérience de république libérale, mais qui va être très riche du point de vue de la matrice idéologique. Tout le 19e siècle s'en sert, le directoire, qui va être ensuite remplacé par Bonaparte, qui, lui, va incarner véritablement ce centre exécutif, cet centre extrême, cet extrême centre, lui-même le dit, ni bonnet rouge, ni talon rouge, mais désormais, la constitution de l'an 8, donc, qui remplace la constitution de l'an 3 donne tout pouvoir au pouvoir exécutif, et je crois que commence ce qu'est le sous-titre du livre, le poison dans la vie politique française dont je pense que nous ne sommes pas sortis.
Oui, mais Pierre Cerna, on pourrait dire que ce n'est pas un poison. Si ce lieu de pouvoir existe, si c'est ça le pouvoir, c'est-à-dire modération, opportunisme, autoritarisme, ce que la Macronie peut-être a compris de manière archétypique depuis son élection en 2017, puisque vous détaillez aussi cet aspect de l'histoire, vous ne vous attardez pas seulement à la Révolution et aux régimes qui ont précédé, qui ont suivi la Révolution. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas le pôle de stabilité, ce n'est pas ça qui assure à la France sa pérennité ?
Alors, oui, vous avez raison. Il faut bien que le gouvernement soit possible. Mais les hommes de la Révolution ont déjà beaucoup réfléchi. Seyès, c'est un homme qui a beaucoup réfléchi à cette question-là. En parlant d'un gouvernement de prestige, c'est-à-dire un gouvernement qui incarne les institutions, je dirais la matrice, par exemple, anglaise, de la royauté anglaise, et puis un gouvernement administratif qui, lui, ne fait rien d'autre qu'appliquer la loi et qui laisse le véritable pouvoir à la souveraineté populaire qui est représentée par ses députés. En France, il y a cette anomalie qui fait que, vous avez bien raison, l'État doit fonctionner, mais il y a cette anomalie qui fait que le pouvoir exécutif empiète le plus souvent sur les prérogatives du pouvoir législatif, comme si l'on avait raté quelque chose par rapport à l'histoire d'un parlementarisme tel qu'il s'est construit dans la, non pas séparation mais division des pouvoirs aux États-Unis, ou bien dans le King in Parliament, qui est la monarchie constitutionnelle, qui est beaucoup plus tranquille, au fond, comme on le voit par exemple dans beaucoup de pays européens, dont on oublie, parce qu'en France on pense que tout le monde vit dans une république démocratique, mais la plupart des pays européens vivent dans des monarchies, et je ne crois pas que la démocratie soit menacée dans ces pays, là où parfois dans la République française, la démocratie peut être menacée par les pouvoirs républicains, parce qu'on peut avoir des républiques autoritaires, et c'est toujours la menace en France de cette fascination pour le pouvoir exécutif.
Est-ce qu'il y a un jeu pervers de l'exécutif pour discréditer le législatif et donner à l'opinion le spectacle de ces divisions et de ces atermoiements comme on a aujourd'hui peut-être un exemple ?
Un jeu pervers, je n'en sais rien. Je regarde les institutions et l'histoire des institutions. À partir du moment où la Ve République a donné ce pouvoir exécutif exorbitant au président, et renforcé par le général de Gaulle, donc, mais qui avait quand même un grand sens, tout de même, de ses responsabilités. La preuve, il démissionne en 1969 sur un vote qui ne le concerne pas. On ne pourrait pas en dire autant du président de la République aujourd'hui. À partir du moment où il y a deux souverainetés aujourd'hui en France, c'est-à-dire la souveraineté du pouvoir législatif et une souveraineté directe, c'est-à-dire le président de la République, directement élu par le peuple, on voit bien qu'il y a deux souverainetés en concurrence et que ce n'est pas très bon si le pouvoir exécutif exagère son pouvoir, comme on l'a vu. Et quand je parle d'exagération de pouvoir exécutif, je fais par exemple référence à la surutilisation de pouvoirs policiers, de pouvoirs gendarmiques, de pouvoirs de l'armée, lors de manifestations, lors de crises. Tout le monde pense aux gilets jaunes, ou même les institutions européennes et internationales ont demandé tout de même à la France de mesurer son utilisation policière du pouvoir.
L'extrême-centre, Pierre Cerna, ou le poison français, c'est votre puce. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Qu'est-ce qui est possible de changer en France pour que la vie politique retrouve une forme de quiétude, de sérénité, de légitimité aussi peut-être ?
Comme tout citoyen raisonnable, peut-être un peu trop raisonnable, me direz-vous, je ne souhaiterais qu'une seule chose, c'est que, comme dans une bonne république démocratique, il y ait une gauche républicaine clairement visible, une droite républicaine clairement visible, pour que...
Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Je le constate comme la plupart des concitoyens. Il faudrait interroger justement cette stérilité de la droite et de la gauche à pouvoir imaginer un nouvel horizon d'idéalité, car sinon la place de l'extrême-centre devenant de plus en plus importante, vous le représentez géographiquement sur l'espace politique, on a des formes de gauche radicale et des formes d'extrême droite qui sont plus importantes et donc peuvent aussi menacer l'idée que l'on se fait d'une république démocratique.
Mais donc aujourd'hui il n'y a plus que des extrêmes?
Alors, je pense, j'ose espérer, non.
Et je disais tout à l'heure que ça n'a peut-être plus de sens, le mot extrême, dans la mesure où il n'y a que ça.
Non, regardez ce vieux pays républicain. Ce vieux pays républicain a su réagir au mois de juin. Il y a eu deux expressions. Un front républicain, un vrai front républicain. Et bon, il est en train d'exploser, mais il y a eu ce front populaire, donc qui a au moins gagné en termes de groupe le plus de voix. Donc non, on n'est pas forcément dans un pessimisme constitutif. Il faut penser à que les réflexes républicains existent dans ce pays. Il n'y a pas que des extrêmes, mais il faudra que le président de la République, bon, qui, selon les observateurs politiques, moi je ne suis pas un homme politique, je suis un historien, a mis le pays dans une sorte de chaos politique dont on a du mal à sortir. Le gouvernement ne gouverne plus, du coup. Le gouvernement ne gouverne plus, et le changement de l'histoire du monde que nous vivons redonne tout à coup, comme vous l'avez très justement précisé, la main au président de la République. Mais les problèmes de gouvernance française demeurent, et les problèmes de clair cap politique, à droite républicaine ou à gauche républicaine, demeure. Et il faudra bien sortir par le haut, et non pas par le chaos ou par un risque de république autoritaire qui serait une catastrophe, vu l'état de l'Europe, vu la montée de l'extrême droite, vu la montée de forces autoritaires.
Mais Pierre Cerna, république et autoritaire, ça n'est pas contradictoire, et il se peut donc que l'on renoue aussi avec une pratique de la République qui a déjà été autoritaire, puisque c'est dans la matrice, c'est ce que vous expliquez, de l'extrême centre, c'est depuis Thermidor, depuis les Thermidoriens, c'est la matrice quand même de notre système.
Mais évidemment,
donc ça n'est pas une incompatibilité avec ce que l'on vit.
Ce n'est pas une incompatibilité, c'est pour ça que je l'ai appelé le poison, mais c'est pour ça que notre République est démocratique. La démocratie sans République peut-être un petit peu de désordre, mais la République sans la démocratie, ça a existé. Dans la plupart des pays d'Amérique latine, évidemment, il y a eu des républiques qui étaient fortement autoritaires. Donc c'est en fait aussi notre confusion entre les termes République et démocratie qui nous empêche de comprendre des dangers qui pourraient être réels si on laisse cet extrême centre face simplement à deux autres forces qui sont la gauche radicale ou l'extrême droite.
Merci beaucoup Pierre Cerna.
Merci à vous.
D'avoir expliqué ce concept, cet oxymore d'extrême centre ou le poison français 1789-2019 aux éditions Chambanon. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de la Révolution française à l'Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire de la Révolution française. À bientôt.
Merci.
Merci à tous les deux et merci Louis Defresne. Louis Defresne, on vous retrouve à partir de 9h10 pour le débat du jour avec un des trois sujets.
Oui, on parlera bien sûr du carême, on parlera bien sûr de l'allocution d'Emmanuel Macron et des conséquences.
Merci beaucoup Louis Defresne, rendez-vous donc à partir de 9h10 pour le débat du jour. Mais avant cela, comme chaque matin, nous écoutons l'évangile du jour, c'est l'heure de notre prière.